Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Éric Silvestro.
Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner jusqu'à 19h30 pour On refait le match. Ça sera plutôt On refait le tirage au sort ce soir de l'Euro 2020 qui débute à l'instant du côté de Bucarest. On va savoir contre qui la France jouera entre le 12 juin et le 12 juillet dans cet Euro qui compte 12 pays et 12 stades. Tirage au sort extrêmement compliqué. On va vous expliquer tout ça avec Nicolas Georgerot qui va suivre le tirage au sort pour nous. C'est vrai que c'est très compliqué, Nicolas.
Oui, bonsoir à tous. Effectivement, il y a des règles assez strictes pour ce tirage au sort. C'est le tirage au sort le plus complexe qu'il n'y ait jamais eu, que ce soit pour l'Euro ou pour une Coupe du Monde.
Et c'est pour ça qu'autour de la table, il n'y a que des spécialistes qui vont décrypter ça, analyser ça avec leur brio habituel. Sébastien Tarrago de l'équipe.
Allez, vous commencez par moi. Vous chambrez, vous commencez par moi.
Bah, c'est lamentable. Au contraire, je vous complimente.
Tout va bien ?
Très bien.
Bon, vous avez des problèmes techniques peut-être?
Pas du tout. Je vous regarde, j'attends que vous me disiez bonsoir, tout comme Jean-Philippe Gorand de l'ESJ Lille, de l'École supérieure de journalistes de Lille.
Bonsoir messieurs, bonsoir Eric, bonsoir à tous surtout.
Et qui également nous avec nous Baptiste Després du Figaro, salut Baptiste.
Bonsoir, bonsoir.
Et enfin, Xavier Barré. Alors là, je vais vous dire, avec lui on est tranquille. Ah. Parce que c'est le guide officiel de l'Euro 2020 aux éditions Solar, c'est lui qui va l'éditer. Donc Xavier, vous savez déjà tout.
Je ne sais pas encore le tirage, mais je sais déjà pas mal de choses.
Comment ça se
passe ? Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
C'est vrai que cet euro est particulier.
Bah, comme il est sur 12 villes de 12 pays différents, forcément, il faut tenir compte du fait que les organisateurs ont envie d'avoir leur équipe nationale à la maison, devant leur public. Or, on ne les connaît pas tous encore, les qualifiés, puisqu'il y a notamment l'Écosse, l'Irlande, la Roumanie et la Hongrie, qui sont susceptibles d'accueillir des matchs, mais qui doivent d'abord se qualifier lors des barrages du mois de mars prochain. D'où la difficulté de ce fameux tirage.
Très rapidement, Nicolas, avant d'avoir la France qui est dans le chapeau 2, parce qu'on rappelle que la France a terminé 7e meilleur premier de la phase éliminatoire et que c'était uniquement les 6 premiers qui étaient dans le premier chapeau. Voilà, on sait qu'on pourra jouer l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Espagne pour les gros.
Effectivement, puisque la Belgique et l'Ukraine, en raison de ce tirage assez dirigé, seront dans d'autres groupes. On est en train pour l'instant de tirer les premières têtes de série. L'Ukraine a été tirée et elle sera notamment donc de ce groupe C, mais en deuxième position. Ça va à ce moment-là réglementer l'agencement un petit peu des matchs et des calendriers et du calendrier à venir.
Allez, tout au long donc de cette émission, le tirage au sort de l'Euro 2020, on n'oublie pas non plus la Ligue 1. Strasbourg-Lyon, c'est le match qui a débuté à 17h30, c'est la mi-temps. C'est Yannick Collant qui le suit pour nous. Pour l'instant, score de parité, Yannick.
Exactement, un partout entre Strasbourg et Lyon. C'est Youssouf Fofana pour Strasbourg qui avait ouvert la marque sur une action collective vraiment d'école, hein, avec Ludovic Ajorc à la baguette. Et puis les Lyonnais qui ont poussé, qui ont réussi à revenir grâce à Maxwell Cornet d'une belle frappe du gauche, largement hors de portée de Matsels. Donc un partout ici à la mi-temps et les joueurs ne sont pas encore revenus sur la pelouse.
La suite de la 15e journée, ce sera également tout à l'heure à 19h30 dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France avec Christian Olivier, Philippe Sanfourche et Giovanni Castaldi en tanne ouverte pour toi Yannick lorsque Strasbourg-Lyon reprendra. Marque une courte pause et on se plonge pleinement à tête reposée sur ce tirage au sort de l'Euro 2020.
RTL, on refait le match. Suivez votre...
On refait le match sur RTL.
Éric Silvestro.
On refait le match jusqu'à 19h30 avec Sébastien Tarrago de l'équipe, avec Baptiste Després du Figaro, Jean-Philippe Grand de l'École supérieure de journalistes de Lille, avec Xavier Barré, l'auteur du guide officiel de l'Euro 2020 aux éditions Solar. Le tirage a débuté, Nicolas Georgerot. On est en train de placer les têtes de série. Alors on sait déjà où elles vont, mais il faut les placer quand même.
Exactement, parce qu'il y a un principe, et tout à l'heure Xavier l'a évoqué, effectivement, chaque pays hôte qualifié va dans le groupe que sa ville accueille. Donc par exemple, pour l'Italie, eh bien, ce sera le groupe A, puisque que ça se partagera entre Rome et Bakou. On vient d'en terminer donc avec ce premier chapeau, avec les chapeaux des têtes de série. L'Italie dans le groupe A, la Belgique dans le groupe B, l'Ukraine dans le groupe C, l'Angleterre dans le groupe D, l'Espagne dans le groupe E et l'Allemagne dans le groupe F. Là, on va passer au pot numéro 2 où se trouve l'équipe de France. Elle sera peut-être tirée en premier, mais il faut aussi préciser que dans ce chapeau 2, il y a deux pays qui sont aussi organisateurs. Ce sont les Pays-Bas et la Russie, et donc évidemment on sait aussi là où ils iront, puisque les Pays-Bas iront dans le groupe où ils joueront à Amsterdam dans le groupe C, et ensuite la Russie ira dans le groupe B pour jouer à Saint-Pétersbourg.
Ce qui reste, le groupe A pour la France, le groupe D, le groupe E et le groupe F. Le groupe A c'est avec l'Italie, le groupe D avec l'Angleterre, le groupe E avec l'Espagne, le groupe F avec l'Allemagne. Avez-vous une préférence messieurs, sachant qu'on parle beaucoup de la volonté de Didier Deschamps d'éviter le groupe A de l'Italie, non pas parce qu'il ne veut pas jouer contre les Italiens, mais parce qu'il aimerait éviter d'aller jouer deux matchs à Bakou et donc peut-être de ne pas être à Clairefontaine pour le camp de base, Xavier Gabin.
Oui, puis en plus, il faut rappeler une chose, c'est que si la France commence à Bakou et qu'elle joue ensuite contre l'Italie à Rome, elle devra faire Bakou-Rome, retour à Bakou pour le dernier match de poule. Donc effectivement, c'est des longs trajets que Didier Deschamps et les Bleus préfèrent éviter, donc on les comprend. Moi, je pense que le meilleur tirage, ce serait l'Espagne, parce que c'est Bilbao, c'est tout proche. Et en plus, l'Espagne à Bilbao, elle ne sera pas chez elle. C'est d'ailleurs la grande angoisse des Espagnols, c'est qu'à Bilbao, les supporters sont pour les Basques, pas pour la Roja. Et d'ailleurs, une grosse inquiétude à la Fédé espagnole autour de ça. Ils doivent jouer un match amical au mois de mars pour préparer le public de Bilbao à soutenir la Roja. Et pour le moment, c'est pas gagné.
Là, Sébastien Tarrago, bon, voilà, ce sera un gros quoi qu'il arrive de toute façon. Donc c'est vrai que si ça peut éviter des problèmes d'intendance, tant mieux.
Oui, j'entends ce que vous dites, mais je me rappelle d'une Coupe du Monde qui se disputait au Brésil. Il y avait des distances assez importantes, hein, me semble-t-il. Ils ont survécu. Donc moi, je pense quand même que l'Italie est la nation la moins forte des quatre, de loin.
10 victoires en 10 matchs de qualification, quand même. L'Italie sous Roberto Mancini, et puis un style beaucoup plus offensif que ce qu'on a vu ces dernières années. Baptiste,
je suis assez d'accord avec Sébastien. Moi, l'Italie, on dit un gros parce que c'est le chapeau numéro 1, mais après, il faut voir ce qu'ils ont fait. Alors effectivement, en qualification, ça tient la route, mais après, derrière, sur une grande compétition internationale, l'équipe de Mancini, on ne sait pas trop au niveau des certitudes. Non, moi, j'aimerais bien partir directement avec l'Angleterre à domicile, jouer contre les Anglais, ce serait bien. Un peu de panache.
Eh bien, ce ne sera pas l'Italie, Nicolas Jean-Jean.
Oui, vous voulez l'Italie, ce ne sera pas l'Italie parce que c'est la Suisse qui sera dans
qui
le
sera
groupe.
À Bakou.
Dans l'Italie.
Non, mais Didier Deschamps doit être content parce que vraiment, lui, il voulait, dans la mesure du possible, et voilà, si je peux établir mon camp de base à Clairefontaine et aller faire les matchs dans les différents pays depuis Clairefontaine, ça m'arrange.
Après, c'est sûr que d'affronter un très gros, ce n'est pas fondamentalement gravissime puisqu'il faut rappeler que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés et que les quatre meilleurs troisièmes seront également qualifiés.
Sachant qu'il n'y a que six groupes.
Voilà, donc. Ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale, c'est pas facile quand même.
Bon, très bien. Jean-Philippe Gouron ?
Non, je suis un peu étonné qu'on parle encore des gros tirages. On parle quand même de l'équipe de France qui est championne du monde en titre. Donc il y a un moment, je veux bien qu'on craigne tout le monde, quel que soit le statut des Bleus. Mais enfin, bref, ça veut dire que, pour rejoindre ce que disait Sébastien, c'est-à-dire que même dans un groupe dit de la mort, qu'on m'explique ce que c'est qu'un groupe dit de la mort, parce que c'est aussi ce que les Français en feront.
Ça voudrait dire une seule
victoire, ce serait que la France serait déjà sûre d'être qualifiée, au moins au titre de meilleur 3-0.
Groupe de la mort, ça veut dire prendre par exemple si le Portugal tenant du titre dans le chapeau 3.
La difficulté viendra du chapeau 3 parce qu'on a le Portugal et la Turquie qui se dégagent un petit peu plus dans ce chapeau 3, et avec une équipe comme l'Autriche qui est évidemment plus abordable.
À l'Euro 2016, il faut rappeler que le Portugal s'était qualifié, Portugal qui sera le champion, s'était qualifié sans gagner, 3 matchs nuls.
Trois matchs nuls dans la phase de poule.
Et l'Irlande du Nord est allée en 8e de finale avec une seule victoire, avec 3 points.
Oui, et puis c'est peut-être plus les adversaires qui doivent craindre le tirage du chapeau 2, parce que celui qui hérite de la France hérite du champion du monde.
Exactement, et puis l'équipe de France, finalement, tout le monde la redoute, évidemment, puisqu'ils sont champions du monde. Et puis, ça veut dire que vous aurez dans ce chapeau, comme vous le dites, Eric, une tête de série plus la France. Donc, d'entrée, c'est le groupe qu'il faudra absolument éviter pour ceux du chapeau 3, même si le meilleur troisième passe.
Alors, on va bientôt savoir un autre groupe où la France ne pourra pas aller, Nicolas, car la Croatie vient d'être tirée. Maintenant, on va voir dans quel groupe elle atterrit.
Dans le groupe de l'Angleterre.
Dans le groupe de l'Angleterre. Pour la France, ce sera donc l'Espagne ou l'Allemagne.
Voilà, Espagne,
ça se resserre, ça se resserre. Alors maintenant, si je vous dis entre les Espagnols et les Allemands, vous m'avez dit l'Espagne parce que Bilbao, pas forcément une grande terre d'accueil. L'Allemagne revient bien aussi, avec Gnabry, par exemple, qui est meilleur buteur des éliminatoires pour l'Allemagne avec 8 buts, voilà, qui est en train de se révéler au grand monde. Mais peut-être que l'Allemagne, c'est bien aussi.
La Pologne qui est en train d'être tirée, donc la Pologne ira sans doute dans le groupe E. On va attendre confirmation de l'UEFA dans quelques secondes et on connaîtra sa position dans le groupe. La Pologne devrait être avec donc l'Espagne et ce serait l'Allemagne pour l'équipe de France, donc le groupe F. On va attendre confirmation. Pour l'instant, c'est Marcel Desailly qui va donner la position de la Pologne dans ce groupe E, on rappelle, qui se jouera à Bilbao et à Dublin, donc Espagne avec Pologne dans le groupe E.
Donc c'est officiel, la France sera dans le groupe F de cet Euro 2020 avec notamment donc l'Allemagne. Pas mal. Donc on jouera à Munich et à Budapest.
Munich et Budapest, effectivement, ce sont les deux villes.
Après l'Allemagne, pour revenir sur le plan sportif, moi j'ai eu l'occasion de pas mal les commenter sur la chaîne L'Équipe ces derniers temps. Il y a beaucoup de naïveté, alors qu'il c'est pas une grande nation. On n'a pas retrouvé la grande Allemagne. Il y a du talent devant. Vous avez parlé de Gnabry, effectivement, qui devient un excellent
bon joueur.
Mais franchement, sur le plan défensif, il y a une forme de naïveté assez incroyable.
Il y a des joueurs dont on parle beaucoup en Allemagne en ce moment. Il y a un joueur dont on parle beaucoup, c'est Timo Werner de Leipzig qui marque le but.
Et ce sera France-Allemagne pour débuter. France-Allemagne, le match d'ouverture
à Munich,
ce sera France-Allemagne. On a vu Didier Deschamps et Joachim Löw qui s'entendent très bien. Il y a beaucoup d'estime entre les deux hommes qui se cherchaient du regard au moment où le nom de la France est sorti. Et donc, la position 3 de la France dans ce groupe F, France-Allemagne pour débuter.
Parce que l'Allemagne a été tirée en position 4. Alors, elle est dans le chapeau 1, mais elle est en position 4 dans le tableau. Donc, 3 contre 4 pour le premier match France-Allemagne. Bah ouais, ça va nous faire un super début d'Euro, ça.
Ouais, très bon début d'Euro. Et pour aller un petit peu plus loin sur ce que disait Sébastien il y a un instant, c'est vrai que l'Allemagne, il y a quand même un côté reconstruction aussi, il ne faut pas se le cacher. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Löw a compris qu'il fallait régénérer l'équipe, c'était plus possible. Et donc, il a fait un turnover assez important. On a parlé de Timo Werner, il y a des défenseurs comme Klostermann, comme Eisenberg de Leipzig, qui l'a arrivé dans le groupe, qui l'a amené dans le groupe. Gnabry, qui effectivement fait une bonne saison avec le Bayern, mais quand même. C'est pas non plus
c'est
la grande
Allemagne.
Bah non, il faut quand même voilà.
26e phase finale consécutive quand même, oui, pour la Mannschaft.
Un élément important aussi, Nicolas, c'est que l'équipe de France va donc entrer parmi les dernières dans le tournoi en étant dans le groupe F. Ça peut avoir son incidence sur 2 ou 3 matchs de préparation pour l'équipe de France.
Donc peut-être 3 du coup.
Si voilà, si en entrant dans les derniers, il pourrait y avoir un 3e match de préparation. C'est en tout cas le souhait de Didier Deschamps.
J'ose quand même espérer, Baptiste Desprez, que c'est pas un 3e match de préparation qui fera que la France sera prête ou pas. Pour l'Euro 2020. Si on en a que 2, on n'est pas prêt.
La finale de Ligue des Champions est le 30 mai. Donc, vous savez, si suivant quel club, je dis n'importe quoi, mais peut-être que le Bayern en finale de Ligue des Champions, avec la contingence française qui est présente, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui arriveraient au dernier moment.
Stolisso, il y en a beaucoup, c'est vrai, au Bayern.
La Turquie qui vient d'être tirée.
Alors, est-ce qu'ils vont retomber contre la France?
Donc, a priori.
Donc, on surveille si c'est groupe F pour la Turquie.
Oui,
dans
absolument.
Ces cas-là, ça voudrait dire avec la France.
Et les Allemands.
Et ce serait un très bon tirage.
La Turquie, qu'on a évidemment eu dans le groupe de qualification, mais que la France n'a pas battu dans ce groupe de qualification. L'Allemagne, ça nous rappelle aussi quand même la demi-finale de l'Euro 2016. La France avait gagné.
Oui, mais c'était surtout dans la poule de la Nation League. La poule de la Ligue des Nations, la France a été dans le même groupe que les Pays-Bas et que l'Allemagne.
Avec l'Italie. La Turquie avec l'Italie, avec la Suisse. Donc le match d'ouverture, on le connaît. Ce sera le vendredi 12 juin à 21h et ce sera Italie-Turquie.
Il est pas mal le groupe de l'Italie, je trouve. Hein. L'Italie, pour ses retrouvailles avec une compétition de niveau, parce qu'on rappelle que les Italiens ont raté la dernière Coupe du Monde. Italie, Suisse, Turquie, Pays de Galles ou Finlande, les Italiens devraient s'en sortir, sachant qu'ils jouent leurs 3 matchs à domicile à Rome. Plutôt clément pour l'Italie.
Absolument.
Après, c'est pas mal pour les Turcs, ils seront chez eux à Bakou.
En Azerbaïdjan.
Et donc ils auront leurs supporters pas loin, donc finalement ça se goupille plutôt bien ce tirage.
Bon, pour l'instant tout le monde a l'air content de ce début de tirage au sort. Bon, l'Allemagne, moi, France-Allemagne, je trouve que pour débuter ça reste une affiche, je sais pas, je trouve que c'est bien, c'est le classique.
J'ai quand même tendance à considérer que c'est un plus gros tirage pour l'Allemagne que pour la France quand même, si on remet les valeurs sur le terrain en ce moment. Je veux bien que le nom Allemagne fait toujours peur en football et on sait pourquoi depuis des années, mais enfin là quand même l'Allemagne doit quand même autant craindre la France que l'inverse, sinon on n'y comprend plus rien.
Autre groupe qui grossit, Nicolas Georgerot.
Le groupe C, ce sera Pays-Bas, Ukraine et Autriche, alors que la République tchèque vient d'être tirée. Et donc assez logiquement, la République tchèque devrait aller dans le groupe D normalement avec l'Angleterre et la Croatie. On va attendre confirmation dans les secondes à venir.
C'est vrai qu'en fait, il y avait très peu de cases à remplir, Baptiste Desprez, dans ce tirage au sort. Je crois qu'il n'y avait que 9 cases à remplir, tout le reste était déjà quasiment décidé. Donc,
C'est ce qui fait le charme, entre guillemets, de ce tirage au sort. Honnêtement, c'est ultra ennuyeux comme tirage au sort, parce que 20 nations sur 24 qualifiées, il y en a 4 dont on saura déjà pas
la phase de barrage qui ne se terminera que fin
mars,
hein, 31
exactement.
Mars.
Donc là on attend avec impatience de savoir si l'équipe de France va tomber avec le Portugal. Là ça aurait vraiment de la gueule pour le premier tour.
Nicolas, on confirme République tchèque dans le groupe D avec l'Angleterre et la Croatie.
Exactement, et c'est vrai que là du coup ça se resserre puisque le Portugal n'a pas encore été tiré. C'est le Danemark qui est tiré
on
à l'instant.
Ils vont
groupe
les
B. Et le voilà dans voilà, le groupe ouais. B, parce qu'on rappelle que le groupe B, eh bien comme le Danemark est un des pays organisateurs, le groupe B se partage entre Saint-Pétersbourg et Copenhague.
Et alors la petite subtilité qu'il faut expliquer à nos auditeurs, Nicolas, pour les pays organisateurs, normalement la plupart jouent leurs 3 matchs à domicile, mais s'il y a 2 pays organisateurs qui sont dans le même groupe, du coup on tire au sort pour la confrontation directe, et là en l'occurrence c'est le Danemark qui accueillera la Russie, c'est
exactement,
ça
en fait, le Danemark jouera ses 3 matchs à domicile, mais la Russie n'en jouera que 2. C'est le petit tirage qu'il a fallu faire ces derniers jours pour départager les deux nations.
Ouais, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas joueront eux leurs 3 matchs à domicile, puisqu'il n'y a pas de deuxième pays organisateur.
La Suède, attention, ça veut dire que ce serait donc le Portugal pour la France et l'Allemagne. Pour l'instant, c'est la Suède qui a été tirée. Logiquement, elle va aller dans le groupe E avec l'Espagne et avec la Pologne. On va attendre de connaître sa place. On aurait pu avoir des retrouvailles entre l'Espagne et le Portugal qui se sont un peu suivis dans certaines compétitions ces dernières années au premier tour. Mais là, ce sera donc a priori donc le Portugal avec la France, avec l'Allemagne.
Bah, c'est même sûr.
Et le groupe de l'Est.
Alors, Jean-Philippe Gorand, à moins d'un
énorme problème, c'est
moi,
sûr.
Jean-Philippe Gorand nous a dit tout à l'heure, mais c'est quoi un groupe de la mort? Eh bien, c'est ça. Allemagne, mais France, non, Portugal.
Non, mais
vous avez le champion du monde, le champion d'Europe et l'Allemagne.
Oui, mais c'est un groupe fabuleux. C'est un groupe fabuleux.
Mais de la mort quand
même.
Au
moins, ça évite les commentaires, les commentaires un peu au tiède du style « ça va être un groupe difficile alors qu'on sait très bien que… » Bon, là, au moins, on sait qu'il va falloir se frotter les mains dès le premier match. Moi, je trouve ça formidable. Et ça rappelle un petit peu le tirage Euro…
2008.
Voilà.
Mais à l'époque, attention, il n'y en avait que deux qui se… Vous avez dit une méchanceté, mais on l'a entendu. La France vous entend, mais il n'y avait que deux qualifiés. Là,
alors on a aperçu Didier Deschamps sur nos écrans, puisque le tirage au sort est évidemment en exclusivité sur W9, chaîne de notre groupe, et on a vu Didier Deschamps sourire, mais sans doute un sourire un petit peu jaune quand même.
Ça veut dire quand même qu'il ne faut pas oublier quand même qu'avec les 4 meilleurs 3e, France, Portugal et Allemagne peuvent aussi se qualifier.
Oui.
On va pas forcément arriver.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc voilà, ça tempère aussi le côté groupe de la mort. C'est choublé. Voilà.
Alors France-Allemagne sera le premier match. France-Portugal sera le dernier. Et on attend de connaître l'identité du dernier adversaire dans ce groupe F, qui sera le deuxième match des Bleus.
Alors ça peut être ou la voie A ou la voie D des barrages. Oui, ça peut être la Hongrie, l'Islande, la Bulgarie, ou la voie D, où là il y a d'autres pays encore. Ça peut être un tout petit pour le coup.
Ça peut être un tout petit, mais il faut
expliquer pourquoi
parce que si la Hongrie ou la Roumanie effectivement sort de la voie B, comme ils sont organisateurs, ils recevront effectivement chez eux.
La voie A.
Et comme ils ne se rencontrent pas directement, ils peuvent se retrouver en finale de cette voie A d'ailleurs, ce qui promet d'être chaud.
Voilà. On a mal à la tête pour plein de raisons.
Et on a quelques secondes, parlons un tout petit peu de terrain et de l'équipe de France. Olivier Giroud a enfin été titulaire avec les Blues de Chelsea. C'était la première fois depuis le 18 août.
Mais ils ont perdu.
Ça s'est pas très bien passé, mais il a eu enfin du temps de jeu.
Il n'a pas été très bon.
Ce n'était qu'une information.
Il est sorti à l'heure jeu, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Il n'a pas été très à son avantage. Et Chelsea non plus, battu par West Ham. Giroud a
rejoué. Il va mettre un peu de temps, c'est un diesel. Il faut aussi qu'il joue un petit peu au foot, qu'il retrouve un petit peu son métier.
Oui, mais alors ça va recréer un problème. C'est-à-dire que s'il commence à avoir un peu de temps de jeu à Chelsea, du coup, est-ce qu'il doit partir ou pas? Quand même, au mercato d'hiver.
Oui, je pense, parce que franchement, il a tellement peu joué avec Chelsea là, depuis ce début de saison.
Il a joué aussi parce qu'Abraham est blessé. Hein.
Oui,
ouais, alors, c'était une semaine de Ligue des Champions.
Il y a Batshuayi qui est là aussi, donc
ça suffira pas de jouer un match tous les 15 jours 3 semaines là pour l'Euro, avec un groupe comme ça par rapport à la Coupe du Monde ou par rapport à l'Euro, quand même l'équipe de France en mode diesel sur le premier tour, pourquoi pas. Là faudra être prêt d'entrée de jeu. Et Olivier Giroud à 40%, non, ça ne marchera pas. Non.
Alors, je vous rappelle, Nicolas, le tirage au sort pour la France, c'est important, dans le groupe F.
Oui, dans le groupe F qui se jouera à Munich et à Budapest, la France se trouve avec le Portugal et avec l'Allemagne.
En attendant, le dernier des qualifiés pour ce groupe F, par la voie des barrages qui se disputeront encore au mois de mars. Je vous trouve alors, mais d'une sérénité, messieurs, je suis impressionné. On sent que vous êtes comme l'ensemble de la France, champion du monde. Parce que là, vous venez de vous prendre l'Allemagne, le Portugal, et vous êtes là. Mais alors, mais tranquille.
Non, mais l'Allemagne, vous avez vu leur match, franchement?
Non, mais bien sûr.
Mais bien sûr, c'est super, parce que c'est une affiche. Et là, on assiste au dernier groupe.
Oui, c'est le cas le plus compliqué.
Bon courage, Nicolas.
Alors, ce sera donc un vainqueur de barrage. Ouais. Si de la voie A, c'est-à-dire des meilleures nations, on rappelle l'identité de ces 4 pays, l'Islande, la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie. Mmh. Si la Roumanie gagne ce barrage, Elle n'ira pas dans le groupe de l'équipe de France, mais elle ira automatiquement dans le groupe C parce que c'est le groupe où il y a sa ville, Bucarest, et donc elle sera pays organisateur.
D'accord.
Bon. Les Pays-Bas, l'Ukraine et l'Autriche.
Soit voilà l'identité des possibles adversaires. Islande, Hongrie, Bulgarie, ou bien Géorgie, Biélorussie, Macédoine ou Kosovo. Voilà le spectre assez large des futurs adversaires, le quatrième adversaire de l'équipe de France.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va falloir attendre le mois de mars pour connaître les groupes. Et c'est pratique pour les pays qui se seront qualifiés via la Ligue des Nations. Parce qu'en fait, pour caler tes matchs, c'est compliqué. Enfin, pour te mettre dans l'esprit de la compétition, c'est compliqué aussi. Je trouve que déjà à ce niveau-là, il y a un désavantage flagrant pour les équipes qui sont déjà les équipes moins cotées de la compétition.
Pardonnez ma question d'observateur extérieur, de supporter de l'équipe de France. Si j'ai bien compris, par la voix prioritairement quand même, mais admettons que la Roumanie gagne ce barrage. Et donc elle va dans le groupe C, hein, c'est ce que
tout
tu nous as dit, Nicolas.
Tout à fait.
C'est pas le finaliste du barrage qui atterrit dans le groupe D.
Non, c'est le barragiste
c'est le
de la
non,
voie
précisons-le.
D.
Voilà.
Donc je résume, Géorgie, Biélorussie, Macédoine ou Kosovo. Autrement dit, il vaut mieux que la Roumanie gagne ce barrage et aille dans le groupe C. Comme ça, l'équipe de France aura l'un de ces quatre pays.
En revanche, on est d'accord que si la Roumanie ne gagne pas le barrage, c'est-à-dire soit elle perd en demi-finale contre l'Islande, soit elle perd contre la Hongrie ou la Bulgarie, dans ces cas-là, c'est bien ou Hongrie ou Bulgarie ou Islande qui va dans le groupe de la France.
Exactement.
J'ai tout compris. Voilà. Bah, j'espère Hongrie, que vous aussi, chers auditeurs,
sachant que la Hongrie,
c'est très clair.
Sachant que la Hongrie est co-organisatrice dans le groupe de l'Allemagne.
Donc elle viendra forcément dans ce groupe-là.
Elle sera forcément dans ce groupe-là si elle
passe.
Oui,
mais en fait, ça dépend que de la Roumanie, j'ai l'impression.
Oui, c'est la Roumanie, effectivement.
Parce que il reste une option, c'est que la Hongrie et la Roumanie soient éliminées.
Bah dans ce cas-là, ce sera le vainqueur du barrage qui viendra chez nous.
Le vainqueur du barrage.
Oui.
Donc on n'aura plus le groupe D. Donc il faut espérer pour avoir un tout petit que la Roumanie gagne ce barrage afin que l'équipe de France hérite dans le groupe D.
Je ne suis pas sûr.
Franchement, la Hongrie est.
La Hongrie, c'est pas fort.
J'ai eu l'occasion de les commenter récemment.
C'est pas terrible.
Là, c'est quelque chose.
Je suis pas sûr que les gens qui nous font l'amitié de nous écouter dans leur voiture, dans les embouteillages de la région parisienne notamment.
Mais pas que, parce que nous n'avons pas quitté.
Non, mais c'est vrai que la formule est très compliquée.
Voilà, c'est compliqué.
Maintenant, c'est vrai que je pense que pour la beauté du sport, ce serait bien que l'Islande y soit à nouveau. Mais je suis pas sûr que ça intéresse l'UEFA parce que je pense qu'elle préfère que la Roumanie se joue devant son public.
Enfin, il y a quand même un match qui va jouer sur le terrain.
Oui, absolument. On est d'accord. Mais c'est vrai que vis-à-vis des pays organisateurs, c'est mieux s'il y a leur équipe nationale. Mais bon, on sait qu'il y en aura déjà deux au moins qui n'auront pas leur équipe nationale et qui vont organiser quand même cet Euro. L'Azerbaïdjan déjà, puisqu'ils sont éliminés. Et puis soit la Hongrie, soit la Roumanie, qui auront des matchs chez eux, mais pas leur équipe nationale.
On s'est bien cassé la tête.
L'UEFA devait décider que dès lors qu'une équipe participait au barrage de la Ligue des Nations, mais que sa ville, sa capitale était retenue pour accueillir, on la qualifie d'office.
À ce moment-là, on avait la moitié du plateau qui était qualifié d'office.
Nicolas, est-ce qu'on a le tirage encore complet? Pas tout à fait. Hein. Il reste encore des quatrièmes chapeaux à placer dans les différents groupes.
Mais je peux vous donner par exemple un groupe complet et sans notamment l'identité à venir via les barrages. C'est le groupe de l'Italie dans le groupe A. Ce sera Turquie, Italie, Pays de Galles et Suisse.
Pays de Galles et Suisse. Donc la Finlande, ça veut dire qu'elle va dans le groupe B.
C'est ça, la Finlande va dans le groupe B, tout à fait.
Donc on a deux groupes complets. Italie, Suisse, Turquie et Pays de Galles pour le groupe A. Belgique, Russie, Danemark et Finlande pour le groupe B. Heureusement, 2024, l'Euro sera en Allemagne. Enfin, il n'y aura plus de tirage au sort compliqué. C'était une belle initiative pour l'anniversaire d'avoir 12 pays, 12 stades. Michel Platini est à l'origine de tout ça.
Oui, mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de candidat. Il n'y avait pas de pays candidat à l'organisation. Ben voilà. Donc là, il y a l'Allemagne pour 2024, c'est bien, mais pour 2028, il y aura qui?
Un Euro à 24.
Il y a peut-être un moment où l'UEFA va quand même donner un jour la grande compétition de foot à la Turquie, parce qu'ils se font repasser devant systématiquement.
Et c'est pour ça qu'ils ont retiré.
L'UEFA accueille quand même les clubs turcs depuis très longtemps dans les compétitions européennes. Je ne vois pas en quoi le peuple turc n'aurait pas droit à organiser une grande compétition de football.
En fait, cet Euro 2020 devait avoir lieu en Turquie. Mais en fait, la Turquie s'est retirée pour privilégier la candidature d'Istanbul aux JO de 2020, qu'ils n'ont d'ailleurs pas eu.
Voilà, et donc ils ont bien fait.
Ils n'ont ni les JO, ni l'Euro. Et l'Euro 2024, ils étaient à nouveau candidats, mais ça a été attribué à l'Allemagne.
Les compétitions rapportent de plus en plus, mais elles coûtent aussi de plus en plus à organiser. Ça y est, on a tout le tirage, Nicolas. Vous nous faites un récapitulatif complet, Nicolas Georgerot, de ce tirage de l'Euro 2020. 6 groupes de 4 équipes.
Alors, le groupe de l'équipe de France. L'équipe de France est dans le groupe F. Et donc, elle aura comme adversaire l'Allemagne, le Portugal, et puis un vainqueur de barrage entre l'Islande, la la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie. C'est le cas le plus simple. Le premier match de l'équipe de France, eh bien, ce sera précisément le 16 juin, mardi 16 juin, France-Allemagne à Munich. Ensuite, la France, sur le deuxième match, affrontera un pays barragiste, l'un des quatre que j'ai nommé. Et pour terminer sa phase de groupe, elle affrontera le Portugal le 24 juin. Les autres groupes, le groupe A, Italie, Turquie, Pays de Galles, Suisse. Groupe B, Danemark, Finlande, Belgique, Russie. Groupe C, Pays-Bas, Ukraine, Autriche. Et puis un vainqueur de barrage entre la Géorgie, la Biélorussie, la Macédoine ou le Kosovo. Le groupe D, l'Angleterre, la Croatie. Le vainqueur d'un barrage entre l'Écosse, l'Israël, la Norvège et la Serbie. Et puis la République tchèque. Enfin le groupe E, l'Espagne, la Suède, la Pologne. Et un vainqueur de barrage entre la Bosnie, l'Irlande du Nord, la Slovaquie et l'Irlande.
C'était le tirage au sort le plus compliqué de l'histoire des phases finales de grandes compétitions de foot, mais quelque part, en 25 minutes, timing par contre, hyper respecté.
Oui, bah ça va, ils peuvent déjà au moins faire ça quand même.
Parce que vu comment ça fait. Non, mais attends, parfois il y a des tirages au sort où entre les discours, les trucs, les prix, les il y en a pour deux heures. Là, au moins, en tout cas, c'était carré.
Ça fait trois jours que Nicolas dort pas quand même.
Là, il respire, là, ça y est, là, il a déboutonné le bouton de la chemise et il peut respirer.
Il n'y avait pas beaucoup de cases à remplir en fait. Il y avait tellement de.
Oui, mais ils les ont tirés quand même les cases qui étaient déjà prêts à remplir.
C'est vrai. Donc, c'était Marcel Desailly qui effectuait le tirage, enfin une partie. Donc, peut-être c'est un bon signe pour les Bleus.
Si on fait une projection sur les huitièmes de finale.
Ah, j'allais dire. Oui, parce que c'était trop simple jusqu'à maintenant. Donc, projetons-nous sur les huitièmes de finale.
Bon, si l'équipe de France termine première de son groupe F devant l'Allemagne et les autres adversaires,
elle sera très forte.
Elle affrontera un troisième de groupe qui viendra du groupe A, du groupe B ou du groupe C. C'est encore assez loin, ça ne sert à rien d'aller plus loin dans les détails. En revanche, si elle termine deuxième du groupe F, ce qui est sûr, c'est qu'elle affronte un premier de groupe, et ce serait le premier du groupe D, le groupe de l'Angleterre. Donc autant finir premier.
Voilà. D'accord, hein, très bien.
C'est toujours mieux, c'est toujours plus simple.
Et si elle termine troisième ?
Si elle termine troisième, elle affrontera soit le vainqueur du groupe C, donc peut-être les Pays-Bas, ou bien le vainqueur du groupe B, peut-être la Belgique.
Voilà. Vous croyez que vous aviez piégé Nicolas Georgerot, c'est impossible de piéger Nicolas Georgerot. Voilà pour le tirage au sort, on fait un petit détour quand même par la méno, Strasbourg, la Ligue 1, Yannick Collant n'est pas intervenu, ce qui veut dire que je suppose qu'il n'y a pas eu de but en seconde période.
Exactement, 67e minute, un partout entre Strasbourg et Lyon, et puis à l'instant, la méno qui gronde parce que Ludovic Ajorc s'est pris un carton jaune, il a percuté Anthony Lopez, la méno évidemment qui croyait au pénalty, mais c'était une faute de l'attaquant strasbourgeois, donc toujours un partout, et le rythme effectivement qui est un peu en dessous de la première période.
Encore 22-23 minutes à jouer ?
Exactement, 22 minutes à jouer.
Bien sûr, on suit ce match juste après les infos de 19h. On reviendra sur le tirage au sort, la première réaction à venir de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France sur W9. La France donc avec l'Allemagne, le Portugal et un vainqueur de barrage dans le groupe F de 7 Euro 2020 du 12 juin au 10 juillet. Après la pause, les infos et la suite dont refait le match jusqu'à 19h30.
RTL, on refait le match.
Toute l'info avec Alexandre de Saint-Aignan.
Un an après, un millier de personnes ont manifesté à Marseille aujourd'hui pour le premier anniversaire de la mort de Zineb Redouane, cette octogénaire touchée par une grenade lacrymogène alors qu'elle se trouvait sur son balcon en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Des gilets jaunes qui étaient peu nombreux aujourd'hui dans le cortège. La foule très jeune était majoritairement habillée de noir, cagoulée et protégée pour éviter les gaz lacrymogènes. Autre mobilisation à Paris aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre la réforme de l'assurance chômage, partant symboliquement depuis le siège du MEDEF qui représente les patrons jusqu'au ministère du Travail. La réforme entrée en vigueur depuis début novembre durcit notamment les conditions d'accès au chômage. Le carburant se fait rare en Bretagne. Des professionnels du BTP bloquent plusieurs dépôts pétroliers à Verne-sur-Sèche, près de Rennes, à Brest, à Lorient et au Mans. Ils protestent contre la suppression de l'avantage fiscal qui leur permet de payer moins cher le gazole non routier. Le nouveau patron des écolos vient d'être élu. Julien Bayou, actuel porte-parole, est nommé secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts. Sa motion a recueilli 92,6% des suffrages. Aux Pays-Bas, la police a finalement interpellé un suspect après l'attaque au couteau dans les rues de La Haye. Il s'agit d'un homme de 35 ans sans domicile fixe, selon les enquêteurs. Trois personnes avaient été blessées hier dans une rue commerçante. Rien à voir avec l'attaque terroriste de Londres. Hier également, une attaque au couteau aussi. Le gouvernement britannique promet de faire la lumière sur les circonstances qui ont permis à cet ancien détenu condamné pour terrorisme de passer à l'acte en tuant deux personnes. Il était en liberté conditionnelle depuis un an. Il portait un bracelet électronique. À quelques jours des élections législatives le 12 décembre prochain. Le Premier ministre Boris Johnson s'est engagé à revoir le système des libérations anticipées. La France dans le groupe de la mort à l'Euro 2020, vous l'avez suivi, le tirage au sort en direct sur RTL. Les Bleus se retrouvent dans la poule F avec l'Allemagne et le Portugal. Le dernier adversaire sera le vainqueur des barrages entre l'Islande, la Roumanie, la Bulgarie ou la Hongrie. Et puis en Ligue 1, Yannick Collin, Strasbourg et Lyon n'arrivent pas encore à se départager.
Oui, il reste 18 minutes à jouer, toujours un partout entre Strasbourg et Lyon et les esprits s'échauffent. C'est de plus en plus tendu sur la pelouse, on a failli avoir un début de bagarre générale tout à l'heure. Ce sont les Strasbourgeois à l'entrée de la surface, une frappe qui passe juste à côté de Youssouf Fofana. Les buts en première mi-temps, Youssouf Fofana pour Strasbourg et Maxwell Cornet, un partout. Il reste donc 18 minutes à jouer. En cas de victoire, les Lyonnais remonteraient à la 4e place au championnat.
Nicolas à Strasbourg pour RTL. Le temps pour demain, un ciel médiocre sur toute la moitié est du pays, notamment dans le sud-est où il y aura des fortes pluies orageuses dès demain matin. Nouvel épisode méditerranéen, soyez très prudents. Le Var, le Vaucluse et la Drôme sont en vigilance orange pour des fortes pluies et des risques de crues. La neige va tomber entre 1200 et 1800 mètres en montagne. On attend même quelques flocons de neige en plaine au petit matin dans le nord du pays. À l'arrière, les éclaircies vont finir par percer la grisaille matinale sur les régions de l'ouest. Les températures pour demain après-midi, il fera 3 degrés à Charleville-Mézières, 5 degrés à Tours, à Laval ou encore à Paris, 8 à Saint-Brieuc et à Trouville, 10 degrés à Embrun, 12 à Brive, 19 à Ajaccio. 19h03 sur RTL, la suite d'On refait le match avec Eric Silvestro.
Passez une bonne soirée avec RTL. La suite, on verra. RTL. On refait le match sur RTL.
Eric Silvestro.
Et avant de reparler du tirage au sort de l'Euro 2020, direction la Méno, car il y a un but, Yannick Collin.
Oh, Lyon qui vient de prendre l'avantage à l'instant sur cette tête de Jeffrey Nalehaïd. Superbe centre au deuxième poteau. Il arrive à glisser une tête entre Matsels et le poteau, au ras du poteau. Magnifique but lyonnais sur un but sur un centre venu de la droite. 2-1 donc pour l'Olympique lyonnais. Il reste 15 minutes à jouer ici à la Méno.
Qui centre, Yannick? C'est Cornet qui centre?
Je crois que c'est Cornet qui centre du gauche, un centre vraiment au deuxième poteau, très loin derrière, et Jeffrey Nadelalid qui était un peu seul. Je crois que c'était Lala qui devait être sur lui, et avec son gabarit, Jeffrey Nadelalid s'est imposé. Et maintenant, Strasbourg va devoir pousser ses 15 dernières minutes.
Ouais, et bravo à Cornet qui est un peu l'homme du match. Il a déjà permis à son équipe d'égaliser d'un très beau but d'une frappe du gauche tout à l'heure. Là, c'est le centre décisif. Matsels, messieurs, pas exempt de tout reproche quand même sur ce but, parce qu'il le prend à son premier poteau, là où il est en fait.
Ouais, après, si le défenseur avait sauté, ça aurait pu être utile quand même. Mais il a décidé de rester les deux pieds au sol.
Bon, allez, Lyon qui se remet dans la course, on y revient dans quelques minutes. D'abord, on rappelle, Nicolas Jean-Jean, l'info de la soirée, c'est le tirage au sort des groupes de l'Euro 2020 et un tirage très, très compliqué pour la France.
Oui, la France se trouve dans le groupe F avec l'Allemagne, le Portugal et avec un vainqueur de barrage. Voici les potentiels adversaires pour le barrage: Islande, Hongrie, Bulgarie ou bien Géorgie, Biélorussie, Macédoine et Kosovo. L'équipe de France jouera face à l'Allemagne le 16 juin à Munich. Elle sera face à un barragiste le 20 juin à Budapest et elle affrontera le Portugal pour terminer sa phase de groupe le 24 juin à Budapest. Les autres groupes, le groupe A, Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse. Le groupe B, Danemark, Finlande, Belgique, Russie. Le groupe C, Pays-Bas, Ukraine, Autriche et avec un vainqueur de barrage entre la Géorgie, la Biélorussie, la Macédoine et le Kosovo ou la Roumanie. Le groupe D, l'Angleterre, la Croatie, la République tchèque et un vainqueur de barrage entre l'Écosse, l'Israël, la Norvège et la Serbie. Enfin, le groupe E, l'Espagne, la Suède, la Pologne et un vainqueur de barrage entre la Bosnie, l'Irlande du Nord, la Slovaquie ou l'Irlande.
Moi j'en connais un qui va bien dormir ce soir. Donc là, Jean-Jean, il rentre une tisane et au lit direct.
Alors on peut rappeler quand même, parce que depuis la défaite face au Portugal en finale de l'Euro 2016, il y a assez peu d'interviews dans lesquelles Didier Deschamps a pas rappelé à quel point il avait encore cette arête au travers de la gorge, cette défaite en finale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, Nicolas va me contredire si je dis une bêtise, mais que le France-Portugal étant le troisième match du groupe, ça veut dire qu'en fonction de ce qui se sera passé avant, peut-être que ce match-là sera un qui passe et un qui sort.
Exactement.
Et il se servira sans doute, évidemment, à l'évidence de cette finale de l'Euro perdue pour, quoi qu'il arrive, motiver ses troupes.
Il n'y aura pas Eder.
Pas sûr encore.
Oui, c'est vrai.
Attention.
Attention.
à Moscou. Il peut peut-être changer la donne et puis être là pour l'Euro. À voir.
Juste une remarque, parce qu'effectivement, on a 7 adversaires possibles issus des barrages pour compléter le groupe de l'équipe de France. Mais enfin, néanmoins, si l'Islande sort et vient compléter le groupe, on peut employer l'expression ou pas de groupe de la mort, mais ce sera vraiment très relevé. En tout cas, c'est plus homogène que, évidemment, si vous tapez la Macédoine dans ce groupe. Et l'Islande, si c'est un groupe très compact, s'ils arrivent à retrouver un petit peu de solidité, ça peut être embêtant à jouer.
D'autant plus que l'Islande est le seul pays de la Ligue A, donc cette fameuse Ligue des Nations jouée l'automne dernier, qui n'est pas qualifié directement.
L'Islande nous a plutôt bien réussi en éliminatoire.
Et même à l'Euro 2016.
Donc jouer l'Islande, pour nous, c'est plutôt une équipe qui nous porte bonheur.
Franchement, on peut se réjouir d'avoir des affiches, c'est formidable. Voilà, c'est assez excitant dès le départ. Tout en rappelant que le nombre de chances de qualification pour les huitièmes de finale est absolument considérable. Donc franchement, c'est chouette.
L'Islande est favori, selon vous, de ce barrage, justement, Hongrie, Bulgarie, Roumanie ?
C'est le seul pays donc issu de la Ligue A, donc la première division européenne, pour faire simple, qui ne se soit pas qualifié directement. Les 11 autres se sont qualifiés.
Logiquement, l'Islande devrait passer.
Tous ses adversaires viennent du chapeau.
Attention, Roumanie, quand même.
Tous ses adversaires viennent du troisième chapeau. Et on les a fait monter pour qu'il y ait des adversaires, en gros. Mais l'Islande est archi-favorite de ces barrages.
On rappelle les demi-finales, Islande-Roumanie et Bulgarie-Hongrie. Donc, ce sont les deux demi-finales. Et on rappelle la date, hein, ce sera fin mars pour connaître l'identité du dernier dans ce groupe.
Baptiste Després, maintenant, il va falloir s'organiser. On disait tout à l'heure 2 ou 3 matchs amicaux en fonction du calendrier. Sans doute peut-être 3, puisque la France rentrera tard, Nicolas Jean-Jean nous l'a dit, dans la compétition. Et puis, établir aussi le camp de base. Ce sera là sans doute aussi Clairefontaine, puisque à part...
Il y a de grandes chances que ce soit Clairefontaine. Avec Bakou, voilà. Parce qu'en fait, l'incertitude, c'était notamment avec Bakou. Si c'était Bakou, pour le coup, là, c'était plus un camp d'entraînement, camp de base vers Bakou, ou en tout cas à mi-chemin entre Bakou et Rome, si on peut dire que mi-chemin, ça le vaut. Mais normalement, ça va être confirmé dans les jours à venir. Là, les sélections vont se mettre au courant. Et surtout, c'est important pour les Bleus. À Clairefontaine, ils ont tout. Ils vont faire en sorte de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles. C'est ce qui va être intéressant. Après, juste une petite chose, une petite remarque. On affuble souvent Didier Deschamps avec l'étiquette de chanceux au tirage.
Ah oui, là pour le coup.
Là pour le coup, un petit peu moins. Et dernière chose, vous sortez de ce groupe-là. Vous êtes champion d'Europe derrière. C'est quand même assez costaud.
Ça aura de la gueule, comme on dit, dans le milieu. Et peut-être que l'animal domestique qui accompagne si souvent Didier Deschamps est parti faire un petit tour.
Souvenez-vous
pendant ce tirage au sort de l'Euro 2020.
Souvenez-vous l'Euro 2000 après la Coupe du Monde 98. Au premier tour, la France était avec le Danemark, la République tchèque et les Pays-Bas co-organisateurs. Donc ça avait été un groupe de premier tour difficile et la France d'ailleurs était sortie seulement deuxième de ce groupe.
Allez, première réaction de Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps à la tête du staff des Bleus, au micro de W9 de Julien Ababou.
C'est un groupe évidemment très difficile, très relevé. On savait qu'on avait eu une chance d'être dans ce groupe-là. On a l'Allemagne, on a le Portugal et puis un adversaire qu'on ne connaît pas encore. Ce qui fait le champion du monde 2014, le champion d'Europe 2016 et le champion du monde 2018. Donc ça fait beaucoup en même temps. Voilà, c'est comme ça, c'est le tirage. Il faut maintenant se préparer, prendre un maximum de précision sur nos adversaires, même si on en a déjà. Et puis être très bon dans les mois qui viennent, dans la préparation et également dans la logistique, bien sûr.
Voilà, réaction attendue de Guy Stéphan au micro de Julien Ababou sur W9. Tirage difficile, va falloir étudier les équipes. Bon bref, ça c'est le discours normal, qui ne peut pas dire grand-chose d'autre.
C'est-à-dire que le quatrième du groupe, ils vont avoir du mal à l'étudier avant le mois de mars, de toute façon.
Ouais, mais ils vont pouvoir établir au moins le camp de base, tu vois, préparer, prévoir peut-être justement les matchs amicaux, du moins le nombre, les dates, des choses comme ça. Ils vont pouvoir avancer un petit peu.
Mais on sait maintenant que la France jouera effectivement à Munich et à Budapest. Donc c'est quand même assez facile d'accès et c'est l'avantage.
Et même si l'équipe de France donc va en huitième, voire en quart de finale, on rappelle que le dernier carré se joue à Londres, à Wembley, mais si l'équipe de France va en huitième et en quart, elle ne jouera jamais à Bakou. Donc ce problème d'infrastructure, de long déplacement ne va jamais se poser pour l'équipe de France.
Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur le tirage au sort de l'Euro 2020 avec la première action donc de Guy Stéphan grâce à Julien Ababou de W9. Vous aurez tout à l'heure Didier Deschamps durant le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France avec Christian Olivier. On va marquer une courte pause et on va se replonger dans la Ligue 1. Notre quotidien ce week-end, c'est la 15e journée de championnat après la victoire de Marseille hier face à Brest 2-1. Lyon joue en ce moment à Strasbourg 2-1 également pour les Lyonnais. Puis on parlera du Ballon d'Or. C'est pour lundi.
RTL, on refait le match.
Bonne soirée en compagnie d'RTL.
On a tellement de choses à se dire.
On refait le match sur RTL.
Eric Silvestro.
On refait le match jusqu'à 19h30 avec Sébastien Tarago de l'équipe, Baptiste Després du Figaro, Jean-Philippe Gouron de l'école supérieure de journalisme de Lille et avec Xavier Barré, l'auteur du guide officiel de l'Euro 2020 aux éditions Solar. Mais si on revient à la Ligue 1, la victoire de Marseille hier, d'abord un petit point sur le direct avec Yannick Collant à la méno. Est-ce que Strasbourg réagit? Strasbourg mené sur sa pelouse par Lyon.
Et oui, on croyait qu'il y avait corner, visiblement ce n'est pas le cas, ce sera un 6 mètres. 83e minute, toujours 2-1 pour Lyon. A aussi signalé la sortie de Léo Dubois sur blessure. Il avait l'air de se tenir le genou, il est rentré pour seulement un petit quart d'heure et il a dû ressortir. Donc à surveiller la blessure de Léo Dubois pour Lyon et l'équipe de France. Et donc pour l'instant, ce sont les Lyonnais qui ont la balle. Il reste 7 minutes à jouer dans cette rencontre.
Et virtuellement, messieurs, provisoirement, Lyon est 4e du championnat dans ce championnat complètement dingue où tu gagnes 2 matchs et où tu te retrouves sur le podium. Voilà, c'est complètement fou.
Marseille est 12e.
Oui, avec 4 points d'avance, on est 3e.
Donc tout peut arriver.
5 points du PSG. Ils sont qu'à 5 points du PSG qui jouera demain soir à Monaco. Ce sera à vivre en direct et en intégralité sur RTL. Est-ce que la réaction de Lyon après son très mauvais match en Ligue des Champions face au Zénith vous rassure quelque peu? Alors on n'a pas tout vu parce qu'on suivait aussi le tirage au sort de l'Euro 2020, mais ils étaient menés au score à la méno, un terrain toujours quand même difficile, et à l'arrivée ils vont peut-être gagner quand même, les Lyonnais.
Oui, puis il y a un joueur qu'il faut mettre en évidence, c'est Ryan Adelaide, parce qu'il connaît un début de saison un peu compliqué, pas parce qu'il n'est pas bon, c'est parce qu'il est souvent la variable d'ajustement dans l'effectif de Rudy Garcia, et c'est lui qui marque le deuxième but aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est un joueur éminemment prometteur, qui n'est pas toujours managé comme il le devrait sans doute, et c'est bien que 6 victoires de Lyon il y a ce soir, elles viennent d'un coup de tête de Ryan Adelaide, qui montre une fois de plus que n'est pas seulement un très grand joueur, un très bon joueur technique, mais qui peut être décisif.
Et je salue quand même Maxwell Cornet aussi, un but, une passe ici, parce que lui non plus n'est pas toujours utilisé de manière régulière. Donc voilà, ce soir il fait aussi la différence.
Il réussit la performance de faire mieux que Bertrand Traoré. Donc c'est déjà quand même extraordinaire, étant donné les prestations de Traoré ces dernières semaines. Et plus sérieusement, sur Lyon, la réaction, c'est le minimum syndical. Mais on attend surtout dans 15 jours contre Leipzig en Ligue des Champions. Ça va être là de vraiment voir si Lyon va reprendre du poil de la bête. Parce que si vous terminez pas premier, ce sera un échec.
Et ce match sera également à vivre évidemment sur RTL dans une soirée spéciale. La réaction de Lyon, Xavier?
Oui, mais c'est salutaire, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas été bons à Saint-Pétersbourg. Puis surtout là, ils sont quand même privés de joueurs importants, notamment Memphis Depay, et donc on voit que les remplaçants, si on peut employer ce terme, saisissent leur chance. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une bonne réaction, prise de conscience de certaines individualités, en espérant qu'elles soient collectives pour la suite. Il y a 3 matchs d'ici Leipzig, et le meilleur moyen de le préparer, c'est de les gagner.
Sébastien Targo, revoir Lyon remonter dans le classement, Marseille s'installer à la deuxième place, est-ce que pour la Ligue 1, Stéphane Moulin, entraîneur en danger, va crier s'il entend ça, mais est-ce que c'est quand même un petit peu plus valorisant de voir les pseudo-gros se replacer un petit peu?
Valorisant, je ne sais pas. Ça évite peut-être des catastrophes industrielles qui auraient des conséquences sur la suite, parce que oui, Marseille aujourd'hui est dans une situation financière très délicate, et si il devait se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, ça pourrait quand même changer la donne et permettre éventuellement à ce club de recruter un petit peu. Après, malheureusement, on veut pas ouvrir les yeux, mais Marseille est un tout petit club aujourd'hui. L'Olympique Lyonnais n'est pas un grand club sur la scène européenne, j'entends, hein, et voilà, on est très 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 loin. Les résultats européens le prouvent, la qualité de jeu depuis le début de saison est vraiment catastrophique. Bon, voilà, réjouissons-nous quand il y a des matchs intéressant, palpitant, comme Marseille-Lyon il y a quelques semaines. C'était formidable à voir. Pour autant, c'était assez faible techniquement, mais c'était formidable à voir. J'espère qu'au moins on assistera à des matchs comme ceux-là. Voyez, et c'est vrai que si on se retrouvait avec Lyon, avec Marseille en haut du classement, eh ben, on aurait au moins l'opportunité de voir ces équipes-là se battre pour un accessit en Ligue des Champions.
Après, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a les grands noms et puis les grandes équipes du moment, hein, Marseille, Lyon, c'est des grands noms du foot français. Après, même le PSG, ce qu'il a montré à Madrid, je veux bien qu'on on fasse des gorges chaudes du deux partout, mais c'est plus que le miracle des loups. Et au niveau d'une équipe qui rêve d'aller très loin dans la compétition, c'est quand même collectivement.
Après, ce que le Real a montré au Parc en début d'année, c'était encore pire.
Oui, mais là, on parle des clubs français.
Voilà.
Bon, alors, on peut toujours se dire, oui, mais cette semaine, par exemple, Manchester United, un grand club, un grand nom du foot européen, a été battu à Astana. Donc, sauf que nous, les clubs français,
c'est tout le temps.
C'est tous les ans. C'est tous les ans. Donc, il y a un moment, voilà, c'est problématique.
Yannick Collant, vous qui êtes à la méno, qui suivez ce match, la victoire de Lyon pour l'instant se dessine. Il reste encore 3 buts dans le temps réglementaire. Est-ce qu'elle serait méritée, cette victoire, ou est-ce qu'elle tient un peu du miracle aussi?
ça tient quand même pas du miracle, mais c'est quand même très très équilibré face à Strasbourg. Et voilà, Strasbourg n'est pas non plus un des grands clubs de France, on va quand même le dire comme ça. Vu l'effectif qu'il y avait sur le banc à Lyon, on voit que c'est sur le papier, en tout cas, c'est pas le même niveau. Mais vraiment, toute cette première mi-temps et en deuxième mi-temps, les deux équipes se tiennent. Donc Lyon a réussi à faire la différence sur, je dirais, sur deux actions presque individuelles. On trouvait que Lyon avait plus de mal dans la construction et Strasbourg a eu plus d'occasions, mais était nettement plus maladroit devant le but. Mais je trouve que ce match a été quand même très très équilibré. On voyait pas vraiment la différence entre une équipe qui joue la Ligue des Champions et une équipe de Ligue 1.
Baptiste Després, le coup de gueule de Rudy Garcia, celui de Juninho aussi après la défaite au Zénith, est-ce que ça a réveillé peut-être un peu les troupes quand même, ou est-ce que bon, rien à voir au niveau de la Ligue 1 qui permet de...
Encore une fois, je pense qu'il faut attendre pour voir dans vraiment le passage, ça va être dans 15 jours en Ligue des Champions, parce que là, la Ligue 1, ils battent une équipe poussive de Strasbourg qui revient un petit peu ces dernières semaines, mais qui n'est pas non plus un foot de guerre. On pense notamment à Marseille qui gagne aussi 4 matchs, je rebondis sur le niveau de la Ligue 1, mais Marseille qui se prend 4-0 contre le PSG et qui derrière gagne 4 matchs, nous revient à la deuxième place, c'est quand même assez faiblard quand même. Mais si Stéphane Moulin aime pas entendre dire ça, c'est un peu mieux, effectivement. Ils font ça sans leur meilleur joueur, Payet revient un petit peu, mais derrière, c'est... Si on se projette un petit peu l'année prochaine, aller en Ligue des Champions, même avec quelques millions en plus et quelques joueurs, qu'est-ce que va faire Marseille ? Est-ce qu'ils vont faire un peu mieux que Lille ?
Alors Lille, c'est du trading joueur, c'est un peu différent. D'accord, mais Lille, sauf que Lille a beaucoup souffert cette année.
Mais Marseille, qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions l'année prochaine ?
Jean-Philippe Gouin, pose la question.
Non, je veux dire qu'on peut aussi passer notre temps dans les débats comme ça à faire du Ligue 1 bashing, parce que c'est assez facile finalement de tirer sur une ambulance. On peut répéter tous les samedis que le niveau de la Ligue 1, c'est bon.
Tous les ans, c'est pire.
Non, mais tous les ans, c'est pire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on part de ce postulat-là qu'il faut dire Marseille vient de faire 4 victoires de suite, donc on relativise. Les matchs, il faut quand même les gagner, même si le niveau n'est pas extraordinaire. On va pas non plus critiquer Marseille parce qu'ils viennent de gagner 4 matchs.
Non,
plus,
du tout.
Comme le disait Sébastien, et effectivement, pour avoir regardé le match, ils ont été plutôt séduisants hier soir.
Eh bien, bon. Vous savez quoi ? On en parle juste après la pub de Marseille, mais avant, je voudrais qu'on écoute la première action de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, interrogé par Julien Ababou de W9 après le tirage au sort de l'Euro 2020. La France, donc, dans le groupe F avec l'Allemagne, le Portugal et avec un vainqueur de barrage entre la Hongrie, la Bulgarie, l'Islande et la Roumanie.
Il aurait pu avoir un tirage un peu plus aisé, mais bon, c'est comme ça, on savait les risques qu'il y avait avec un tirage partiel, c'est comme ça, donc au moins on sait à quoi s'attendre sur deux adversaires, on attendra le dernier qui se qualifiera au mois de mars, mais évidemment il faudra être tout de suite performant dès les matchs de poule, c'est souvent le cas maintenant depuis un petit moment, que ce soit en championnat d'Europe ou durant une Coupe du Monde, mais là on raconte de grosses nations qui ont gagné des titres aussi récemment, donc voilà, on a un programme chargé.
C'est à quoi s'attendre, même si je trouve que depuis quelques compétitions, il y a de moins en moins la possibilité, la dernière Coupe du Monde, de pouvoir monter en puissance, comme on dit, dans les matchs de poule. Et on a vu des équipes fortes qui n'étaient pas performantes tout de suite et qui ont connu des mésaventures dès les matchs de poule. Là, forcément, et de par l'ordre des matchs aussi, puisque notre premier match, ça sera face à l'Allemagne, chez elle, à Munich. Donc, oui, il faudra bien évidemment être au top tout de suite. C'est le tirage qui a voulu ça, donc on connaît notre programme, on va savoir les jours et les horaires aussi pour caler notre préparation en fonction de ça.
Didier Deschamps avec Julien Ababou sur W9 après le tirage au sort de l'Euro 2020, donc la France dans le groupe F avec sur l'Allemagne et le Portugal et avec un vainqueur de barrage, pas la Roumanie parce que si la Roumanie gagne elle ira dans un autre groupe, mais ça pourrait être la Hongrie, la Bulgarie ou l'Islande, et à un degré moindre si jamais la Roumanie gagne le barrage, la Géorgie, la Biélorussie, la Macédoine du Nord ou le Kosovo. Baptiste Després.
Je suis pas d'accord avec Didier Deschamps quand il dit là on n'aura pas assez de temps pour justement monter en puissance dans le premier tour. Faut se rappeler quand même à la Coupe du Monde le groupe qu'on avait avec le Pérou notamment, où,
l'Australie pour débuter,
l'Australie aussi et le Danemark. On avait quand même eu le temps au niveau diesel, on était pas mal.
Oui, mais là, il dit comme on joue des très grosses équipes, il faudra sans doute être prêt plus vite, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être moyen dans les premiers matchs.
Ce qui est amusant dans le discours d'après-tirage de Didier Deschamps, c'est que là, évidemment, c'est le groupe le plus homogène dans le haut niveau. Donc, le discours ne peut être que celui-là. Mais je me disais, s'ils avaient tiré un groupe beaucoup plus facile, est-ce qu'il l'aurait dit ? Puisque là, il dit, on aurait pu être plus gâté. Donc, s'il l'avait été, est-ce qu'il l'aurait reconnu ?
Il aurait dit, vous savez, toutes les équipes sont difficiles, il faut se méfier de tout le monde, c'est compliqué.
Mais il faut se mettre à leur place. c'est un exercice un petit peu lancinant aussi. D'après tirage, ils vont se rencontrer que dans 6 mois.
Oui, il faut être humble et ambitieux en même temps.
Non, mais ce serait quand même une grosse faute de communication si tu as un tirage au sort favorable, de dire oh là là, ça va être facile. Bon, évidemment qu'il ne faut pas faire cela, même si on peut regretter le manque de sincérité, on le comprend.
Allez, on marque une courte pause, on termine avec la Ligue 1 et le Ballon d'Or. Lyon qui mène toujours 2 buts à 1 à Strasbourg, on est dans le temps additionnel.
RTL, on refait le match.
Le grand. On refait le match sur RTL.
Éric Silvestro.
On refait le match jusqu'à 19h30 avec Sébastien Tarago de l'équipe, Baptiste Després du Figaro, Jean-Philippe Gouron de l'École supérieure de journalistes de Lille et Xavier Barré, auteur du guide officiel de l'Euro 2020 aux éditions Solar. Les dernières secondes d'abord à la méno de Strasbourg-Lyon, Yannick Collant.
Toujours 2-1 pour Lyon, mais c'était les Strasbourgeois qui poussaient, mais Kenny Lala a perdu le ballon à l'entrée de la surface de réparation lyonnaise. Et c'est une contre-attaque avec Jeffrey Nadelaïd qui est repris à la course par Mohamed Simakan, le jeune défenseur strasbourgeois qui a fait quand même un très très gros match ce soir. Allez, Mitrovic pour peut-être les dernières secondes qui va allonger. Strasbourg a fait rentrer tous ses attaquants. Il y a Zoé, il y a Dacosta qui sont entrés. Donc on joue à 3 ou 4 attaquants, mais on a du mal à construire. Les Strasbourgeois ont toujours la balle. Ce sera une touche par Anthony Cassis. On essaye d'entrer dans le camp lyonnais. Les Lyonnais qui ont fait entrer Andersen à la place de Dembélé. Hein. C'est pour vous donner un peu l'idée des Lyonnais en cette fin de match. Ils essayent de tenir. Dès qu'il y a une petite touchette, ils tombent et ils restent au sol bien longtemps pour récupérer. Voilà, Matsel qui allonge derrière, c'est directement jusqu'à Anthony Lopez qui se couche dans sa surface pour gagner encore quelques secondes. Voilà, les Lyonnais qui essayent vraiment. Alors, comme ils ont perdu du temps, voilà, il y a Jason Denayer qui, à son tour, se jette dans la surface pour se plaindre de crampes. Et ça dure comme ça depuis 5 minutes. Il y a à chaque fois un Lyonnais par terre. À chaque arrêt de jeu, il y en a. Tout à l'heure, c'était Maxwell Cornet, ça a été Moussa Dembélé. Et ils sont à chaque fois tout seuls dans leur coin et ils se jettent au sol. Donc, ça a le don évidemment d'énerver le public strasbourgeois pour ces dernières secondes. L'arbitre qui fait signe qui va décompter à chaque fois tous ces arrêts de jeu, mais c'est impressionnant, hein. Il y a à chaque fois un Lyonnais par terre.
Et même en tribune officielle, Aulas est en train de se justifier, Jean-Michel Aulas, auprès sans doute d'un dirigeant strasbourgeois que je n'ai pas reconnu sur l'image, mais voilà, ça discute apparemment de l'attitude des Lyonnais, un petit peu anti-sportive. Ils ont besoin de se rassurer, ils la veulent cette victoire, elle est importante en Ligue 1 et forcément ça fait gronder un peu la méno.
Voilà, et puis il y a des supporters qui sont juste devant la tribune officielle effectivement et qui ont l'air d'être en train d'haranguer Jean-Michel Aulas, ce qui explique sans doute cela aussi. Voilà, mais c'est vrai que tout à l'heure on a vu Moussa Dembélé, il y a Kenny Lala qui marchait en reculant, qui du coup lui a touché la cheville, mais en marchant en reculant, il était derrière lui, il n'avait même pas vu, et il s'est voilà, il s'est jeté au sol, Moussa Dembélé, comme s'il y avait eu un tacle. Donc ça fait un petit peu beaucoup, mais les Strasbourgeois, je pense, auront du mal à revenir parce qu'ils ont vraiment du mal à construire dans ces derniers instants. On est revenu dans le camp strasbourgeois, c'est Mohamed Simakan qui va allonger une longue balle devant vers la tête d'Ajor qui est retenu dans le dos par Andersen, l'arbitre qui ne siffle pas, et c'est reparti pour les Lyonnais, l'arbitre qui siffle la fin du match, et les Lyonnais effectivement qui se serrent dans les bras, on a l'impression qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Anthony Lopez, les bras levés, les poings levés dans la méno, victoire 2-1 pour Lyon face à Strasbourg. On sent qu'ils avaient besoin de se rassurer, les Lyonnais. Je vous rappelle les buteurs, c'était Youssouf Fofana pour le Racing Club de Strasbourg à la 21e minute, 1-0 pour Strasbourg, et puis ensuite égalisation de Maxwell Cornet, c'est une belle frappe du gauche toujours en première mi-temps, et puis en seconde période ce long centre de Maxwell Cornet pour la tête de Jeffrey Nadelaïd qui a permis à Lyon de l'emporter ici sur le terrain du Racing Club de Strasbourg.
Et grosse explication également entre Thierry Loret et Rudy Garcia sur le bord du terrain après cette victoire lyonnaise donc à Strasbourg 2-1.
C'est révélateur, hein, c'est extrêmement révélateur les comportements de fin de match, notamment cette joie et cette rage des joueurs lyonnais, c'est dire si les dernières heures ont dû être tendues et si la pression était forte avant cette rencontre.
Ouais, Lyon qui avait besoin de gagner, Rudy Garcia aussi, hein, qui mine de rien a déjà perdu 3 matchs depuis sa arrivée à la tête de l'OL, pour sa crédibilité. Rudy Garcia ce soir en tout cas, Lyon et remonte à la 4ème place provisoirement du classement après la victoire de l'OM qui lui est 2ème contre Brest 2-1. Je voudrais qu'on termine l'émission avec le Ballon d'Or quand même. C'est lundi, la remise du Ballon d'Or. On parle beaucoup de Lionel Messi, hein, pour un 6ème sacre. Ça vous semble logique, Baptiste Després ?
Logique, je sais pas, mais en tout cas ce serait pas scandaleux. Après, on peut dire aussi Sadio Mané, on peut dire Van Dijk derrière. Donc, Ça me semble pas scandaleux de voir Lionel Messi remporter le Ballon d'Or. Après, personnellement, j'aurais préféré Sadio Mané.
Xavier Barré, vous avez longtemps travaillé à France Football. C'est vrai que les joueurs de Liverpool sont 7 nommés dans les 30. Et ça va pêcher.
C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec les Bleus. Après, il y avait les Bleus en
Varane,
force
Griezmann, Mbappé.
Voilà, dans la liste des 30. Et finalement, c'est Modric qui a été sacré. Donc là, effectivement, les voix, on analysera les votes lundi, mais les voix sur les joueurs de Liverpool ont pu se diviser entre Sadio Mané, Mo Salah, Virgil van Dijk qui lui a été élu meilleur joueur par l'UEFA. Donc forcément il y avait sûrement une dispersion des voix en faveur de Liverpool et ça a probablement rendu service à
Sébastien Tarago.
Moi je ne sais pas qui va gagner, mais si c'est Lionel Messi, ça me paraît absolument normal. C'est le meilleur joueur de l'année 2019. Il a été meilleur que Sadio Mané.
Meilleur buteur européen.
Mais au-delà de ça, il a été fantastique cette année. C'est-à-dire que l'année passée, il a été parfois quelconque. Cette année, il a été fantastique. Il est champion d'Espagne, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Ok, il y a ce match raté à Liverpool, mais avant, il est exceptionnel. On élit le meilleur joueur
individuel.
Si c'est le meilleur joueur, c'est lui. Sadio Mané, il a gagné la Ligue des Champions, mais il n'a pas gagné la Première Ligue, il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et à la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, il a souvent été quelconque. Donc, on a envie de voir d'autres joueurs gagner. Mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre la lucidité.
Jusqu'à il y a un mois, on parlait beaucoup de Van Dijk parce qu'il avait été un défenseur incroyable sur l'année. Liverpool a gagné avec des champions. Ça a été un peu plus dur pour lui d'ailleurs ces dernières semaines. Je sais pas si ça a joué.
Là, il a
pas
mis
dans
un doublé,
le
je crois, non
oui. Non, mais là, il a marqué un doublé, mais défensivement. Je parle d'un
vous avez raison.
Que personne ne passait. Vous il s'est fait passer ces derniers temps.
Il s'est fait passer quelques fois, effectivement. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait été élu meilleur joueur par l'UEFA, forcément, ça avait renforcé son statut.
Mais l'UEFA favorise la Ligue des Champions.
Oui,
ce qui est logique, c'est sa compétition. Ça a toujours été comme ça. Franchement, si vous regardez. Les gens en ont marre, la lassitude, je la comprends. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de match pour moi.
C'est-à-dire que la lassitude, elle ne doit pas atténuer, elle doit pas atténuer le jugement qu'on porte sur un phénomène comme Messi.
Ou Ronaldo, qui reste
pour moi,
mais pour moi, Messi, c'est
au-dessus de Ronaldo. C'est-à-dire c'est un joueur qui est hors du temps. C'est un joueur qui, à chaque match, fait quelque chose d'incroyable.
Oui, mais même à l'inverse, il ne faut pas qu'il ait des prix quand il ne les mérite pas, juste parce que c'est un joueur hors du temps. Non, mais comme il avait été meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014, de manière scandaleuse.
Oui, mais ça n'a pas de sens. Mais le Ballon d'Or, c'est une compétition, enfin un trophée qui a du sens. L'a-t-il remporté l'année dernière? Non, il ne le méritait pas, il ne l'a pas gagné.
Tout à fait. Christian Olivier nous a rejoint dans le studio, le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France, 19h30, 23h. Christian, Ballon d'Or pour tous vos chroniqueurs, de toute façon.
Absolument. Et quel programme ce soir? La Ligue 1, bien sûr. Et l'Euro aussi. Formidable.
Ah oui,
Allemagne,
suite.
Portugal, avec l'équipe de France et un adversaire à désigner au mois de mars. À partir de 20h, dans 29 minutes, réglez vos montres. Bichente Lizarazu, ici même, en studio, pour commenter, en même temps que les matchs de Ligue 1. Ce tirage au sort extrêmement difficile, mais tellement passionnant.
On aura de belles émissions, Christian, entre le 12 juin et le 12 juillet, notamment les matchs de groupe de l'équipe de France.
Bien évidemment, à suivre avec vous-même et le service des sports, les envoyés spéciaux et les correspondants de
RTL. Allez, bonne émission, bon multiplex. À demain, je vous retrouve pour On refait le sport à 19h30.